Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Des gens lui amenaient des petits enfants, afin qu'ils les touchent. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit : Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Dans ces quelques versets, il y a bien des éléments surprenants. Dans ce chapitre 10, nous étudions actuellement l'évangile de Marc, nous sommes là un petit peu en avance, mais voilà, Jésus part de la Galilée pour se rendre en Judée, et en particulier à Jérusalem. La renommée de Jésus était déjà grande. Dès que Jésus arrive dans une nouvelle ville, les foules se rassemblent autour de lui pour entendre ce qu'il a enseigné, ou peut-être avant tout, pour voir ces miracles dont tout le monde parle. Les malades, comme les bien-portants, viennent à sa rencontre. Ici, on amène même des petits-enfants à Jésus pour qu'il pose les mains. Le fait que l'on amène à Jésus des enfants, c'est là quelque chose de surprenant. Parce qu'à l'époque, l'on ne demandait pas la bénédiction de n'importe qui sur son enfant. C'est au temple, habituellement, que l'on demandait la bénédiction. Et c'était au représentant le plus âgé de la famille que l'on fait. L'on ne la demandait pas à n'importe qui. En particulier pas à un charpentier que l'on ne connaît que de réputation. Mais je crois que ses parents ont compris quelque chose de cette personne. Peut-être même quelque chose que ses propres disciples n'avaient pas encore fait. Dans tout ce récit, l'élément le moins surprenant, finalement, c'est la réaction des disciples, n'est-ce pas? Les disciples, voyant cela, firent des reproches à ceux qui amènent leurs enfants. Le roi des rois ne peut pas perdre son temps pour des petits-enfants. Les disciples veulent préserver leur maître en disant aux parents qu'il n'a pas de temps à perdre avec eux. Aujourd'hui, nous sommes dans le règne de l'enfant-roi. Du temps de la Bible, c'était plutôt le contraire. L'enfant était tout en bas de l'échelle de la société. Les malades, les infirmes, à la limite, oui, on les amène à Jésus. Mais les enfants n'y pensaient pas. Mais je dois dire que je comprends tout à fait la réaction des disciples. Ouais, je ne doute pas que j'aurais malheureusement, probablement, réagi comme eux, si à leur propos. Le roi tant attendu est arrivé. Celui que le peuple attend depuis tant d'années est là. Et enfin, ça fait 10 chapitres que les disciples espèrent que Jésus se mette en route pour Jérusalem, c'est ce qu'il fait maintenant. Il est en route pour établir son règne éternel. Ce n'est pas le moment de venir l'embêter avec des choses insignifiantes en comparaison avec l'établissement du règne de Dieu. Il a bien eu à faire. Il a une mission, ne le savez-vous pas? Les choses réellement surprenantes. À la vue de l'attitude des disciples, Jésus fut indigné. Indigné et leur dit : Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Et il les prit dans ses bras et les bénit, posant les mains sur eux. Et non seulement Jésus n'approuve pas les reproches de ses disciples, mais il fait beaucoup plus que ce qui est espéré. Là, on espère qu'il va simplement les toucher. Mais lui, les appelle, leur parle à eux, enfants, directement. Et même si on en croit Marc, les prend dans ses bras, les bénit en posant les mains sur eux. Ses disciples cherchent à les renvoyer. Jésus, lui, les met au cœur de son action, au cœur de sa parole. Il les accueille, bras ouverts. On lui donne en exemple de la foi. Par cette réaction, Jésus souhaite faire comprendre quelque chose d'important à ses disciples. Enfin, les disciples souhaitent préserver leur maître en lui épargnant de devoir perdre son temps. Jésus, au contraire, prend le temps pour ses enfants. Il ne critique pas les parents. Au contraire, ce sont ses propres disciples qu'il critique. Il ne critique pas les enfants. Au contraire, il va vers eux. Et il prend le temps de leur donner ce qu'ils souhaitent. Enfin, la réaction de Jésus est à l'opposé de celle des disciples. Les disciples pensent que cela va faire perdre du temps à Jésus. Jésus, lui, prend ce temps-là. Les disciples estiment qu'il y avait mieux à faire. Jésus, lui, estime qu'il est nécessaire d'être là pour les enfants. Enfin, c'est merveilleux de voir Christ prendre ce temps-là avec les enfants. Jésus s'indigna. Jésus fut indigné. Enfin, c'est un mot fort utilisé ici pour décrire la réaction de Jésus. Il s'indigna de l'attitude des disciples. Enfin, Jésus, ici, n'agit pas à contre-cœur. Il n'agit pas seulement pour faire plaisir, mais réellement parce que c'est sa volonté de prendre ce temps avec les enfants. Jésus s'indigna. Un sentiment de colère et de révolte. Jésus est en colère contre ses disciples. Jésus souhaite prier pour chacun des enfants présents. Et il est en colère parce que ses propres disciples cherchaient à renvoyer ses enfants à Jésus. Ce que les disciples avaient mal compris, c'était justement la mission de Christ. Jésus est venu pour servir. Il est venu pour servir même le plus faible, même le plus insignifiant. Tout au long de son ministère, Jésus va prouver cela. Jésus s'indigne de l'attitude des disciples. Et la réaction de Christ ici doit nous interpeller parce qu'elle est inhabituelle. C'est le seul endroit dans l'évangile de Marc, le seul épisode des quatre évangiles où il est indiqué que Jésus s'indigne. Même si je crois que sa réaction avec les vendeurs du temple au chapitre 11 est la même idée qu'ici, combien même le mot indigné n'apparaît pas. Jésus s'indigna. Jésus ne se mettait pas en colère facilement. Mais les réactions de Jésus ici, face à l'attitude des disciples, étaient fortes. Il était en colère. Dans cette réaction de Christ, doit nous interpeller aujourd'hui. Si sa réaction est aussi forte, je crois qu'il est important pour nous de réfléchir à cette problématique de la place de l'enfant dans l'Église. L'accueil des familles, l'accueil des enfants en particulier, est quelque chose que Jésus n'a pas pris à la légère. Comment comprenons-nous l'enfant? Si Jésus était présent parmi nous aujourd'hui, que nous dirait-il à ce sujet? Quelle est la place que l'on donne à l'enfant, tant individuellement qu'en tant qu'Église? C'est là tout particulièrement où j'aimerais mettre l'accent. Trop souvent, lorsque nous lisons ces versets, de suite, nous passons à la deuxième partie, celle qui nous concerne, nous, d'une certaine manière. C'est comme si nous lisions ce passage et nous ne regardions qu'au verset 15. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Je dois être comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est vrai que c'est important pour nous de chercher à avoir la même confiance qu'un enfant dans ses parents, la même humilité, le même désir d'apprendre, de suivre l'exemple de ses parents. Tout cela est nécessaire, évidemment, mais trop souvent, nous oublions de regarder au verset 14. Laissez donc les petits-enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui le reçoivent. Il est attendu de nous que nous fassions tout notre possible pour laisser les enfants venir à nous. Faire tout notre possible. Mais c'est un défi vraiment compliqué à vivre. Tous les parents savent à quel point il est difficile de refléter Christ avec ses enfants. Parce que nous sommes loin d'être parfaits, parce que nous sommes fatigués, parce que nous avons nos propres luttes, nos propres limites. Cependant, c'est à quoi Dieu nous appelle. Être des témoins de Christ envers nos enfants. Mais d'une certaine manière, ce qui est annoncé ici est encore plus fort. Laissez donc les petits-enfants de l'amour. Les enfants ici, ce ne sont pas ceux des disciples. Les disciples étaient probablement tous célibataires à l'époque. À ces personnes-là, à des célibataires, Jésus leur dit ce verset. Jésus annonce qu'il faut dans l'Église tout faire pour le bien des enfants, même pour les enfants des autres. Tout faire pour laisser l'enfant venir à Christ. Bon, cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais reprendre, corriger ou punir les enfants, parce que l'amour de père avec la discipline. Et je ne suis pas non plus en train de dire que cet amour-là, nous ne le vivons pas déjà. Non, mais je nous exhorte à nous comprendre en mission envers les enfants de l'Église. En mission envers eux. Enfin, c'est une mission importante que Jésus confie à l'Église. Les enfants nous semblent peut-être insignifiants à l'Église. Ou du moins, pas aussi importants que nous. C'est faux. C'est faux. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus lui-même. Nous, adultes, avons une responsabilité envers les enfants de l'Église. Notre but n'est pas de convertir les enfants, notre but n'est pas de les endoctriner, notre but c'est de leur présenter Jésus-Christ par nos paroles, comme par nos actes, leur présenter Jésus-Christ. Si nous vivons cette mission que Christ nous confie, cela va toucher les cœurs. J'ai eu, moi, ce privilège de grandir dans une famille chrétienne, et plus largement de grandir dans cette famille d'Église. Et le témoignage des adultes de l'Église était de l'un des éléments qui m'a mis à Christ. Ce n'était évidemment pas le seul, mais c'était l'un d'entre eux. Et je crois qu'il aurait été bien plus difficile pour moi de donner ma vie à Christ s'il n'y avait pas eu ce témoignage à mon égard. Un exemple. Pour mon anniversaire de 6 ans, me semble-t-il, j'avais eu envie d'inviter mon pasteur pour l'apéro. J'avais pris mon courage à deux mains un dimanche et je l'avais invité. Et à ma grande surprise, il était venu. Un pasteur d'une grande église, un pasteur bien occupé, alors que j'étais à vue humaine et je le reconnais moi-même, quelque peu insignifiant. Mais il a vécu l'amour de Christ envers moi. Et j'ai encore le livre qu'il m'a donné. Parce qu'il représente quelque chose de spécial pour moi. Enfin, c'est le seul cadeau dont je me souviens encore de cet anniversaire. Enfin, je savais qu'il était bien occupé, et je ne lui en aurais pas voulu s'il n'était pas venu. Mais il est venu. Enfin, c'est là l'un des nombreux témoignages que j'ai eu le privilège d'avoir en tant qu'enfant. D'avoir mon égard en tant qu'enfant. Je pourrais en citer un grand nombre. Je pourrais citer les témoignages de M. Edgar Fosset, de Pajan Rat, de Violette Savant, de Paul Marionnet, et de bien d'autres également, dont le témoignage de plusieurs présents parmi nous ce matin. J'ai pu grandir en voyant l'amour de Christ vécu pratiquement. Je prie que Dieu me donne, qu'il nous donne en tant qu'Église, d'avoir le même amour que le Christ a eu pour nous. Sommes-nous prêts à vivre cet amour dans l'Église, envers les adultes comme envers les enfants? Ce n'est pas toujours facile à faire, mais lorsque c'est vécu, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Un exemple pratique, lorsque maman ou un papa vient seul avec son bébé et que ce dimanche il n'y a pas de garderie, que le bébé se met à pleurer, sommes-nous prêts à vivre l'amour de Christ avec elle? De cette personne, en lui faisant comprendre qu'elle est à sa place dans l'Église. Et que ce n'est pas grave si son bébé pleure. Et plus encore, lui faire comprendre que nous nous réjouissons de savoir qu'elle est parmi nous. Notre priorité, c'est vivre l'amour de Christ avec notre prochain. Et en particulier lorsque cela est difficile. Et puis tant pis si ce dimanche-là, c'est plus difficile d'écouter la prédication. Le but de la prédication, c'est d'amener à Christ. Peut-être que ce dimanche-là, Dieu nous fera travailler sur notre esprit. Sommes-nous prêts à donner la même importance dans l'Église à l'enfant qu'au pasteur? Moi, je suis toujours touché quand quelqu'un attend de pouvoir me saluer avant de partir. Regarde, on n'est pas parti avant de te dire bonjour. Je trouve ça réellement... Bon. C'est vraiment touchant. Mais sommes-nous prêts à vivre cet amour-là envers les enfants? Est-ce que saluer les enfants le dimanche et leur demander comment ils vont est notre priorité? Personne n'est insignifiant dans la vie. Personne. Sommes-nous prêts à aimer les enfants de l'Église? Sommes-nous prêts à témoigner de Jésus-Christ? Alors la question se pose, et j'y réponds rapidement. Comment faire, pratiquement? Comment faire? Je crois que la clé, c'est comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Et nous laisser transformer par la grâce. Les disciples croient que les enfants sont insignifiants. Mais en réalité, ils ne sont pas plus insignifiants qu'eux. Pour Dieu, il n'y a pas de personne plus insignifiante que d'autres. Tous sont sur le même pied d'égalité. Ce que les disciples avaient mal compris, c'est justement la mission de Christ. Jésus est venu pour servir. Il est venu pour servir même le plus faible, même le plus insignifiant. Jésus le dira lui-même un peu plus loin dans ce même chapitre, Marc 10, 43 à 45. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Tout au long de son ministère, Jésus va prouver que personne n'est insignifiant à ses yeux. Ainsi, Jésus, dans ce passage, aime les enfants. Dans les chapitres suivants, il va aimer les malades, les faibles, les exclus de la société. Personne n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Notre monde aime créer des divisions, des hiérarchies, mais pour Dieu, personne n'est insignifiant. Jésus va aimer les gens qui ne sont rien, les insignifiants, les faibles, les pauvres, les rejetés. Dont nous faisons partie. La clé pour vivre cet amour-là, c'est se comprendre soi-même comme faible et insignifiant. Mais également infiniment aimé de Dieu. Mais qu'il est facile pour nous de croire que nous sommes forts et importants, n'est-ce pas? Mais nous n'arrivons pas à être fidèles à notre parole. À cause de notre péché, nous n'arrivons pas à vivre comme nous souhaiterions vivre. Plus encore, à cause de notre péché, nous n'arrivons même pas toujours à souhaiter vivre comme nous devrions vouloir vivre. Nous sommes bien plus pécheurs et bien plus insignifiants que nous le pensons. Nous ne pouvons nous déclarer justes devant Dieu parce que nous ne le sommes pas. Nous ne pouvons nous déclarer bons, patients, forts, aimants parce que nous ne le sommes pas. Les choses merveilleuses. Jésus nous aime, nous sommes. Et Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa propre vie en sacrifice. Nous sommes peut-être insignifiants dans notre société, mais nous sommes signifiants pour Dieu. Alors que nous étions rebelles, alors que nous menions une vie sans repère, une vie de rébellion contre notre Père céleste, alors que nous étions insignifiants, lui nous a aimés. À nous de ne jamais oublier cela et de nous laisser constamment transformer par cela. Et à nous maintenant de reprendre le relais et d'aimer nos frères.